VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 18 mai 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, la priorité à la paix et à la sécurité a permis, selon les autorités, de résoudre la mutinerie des soldats.
Au Mali, une force d'intervention rapide composée de casques bleus sénégalais sera bientôt déployée dans le centre du pays.
Au Nigeria, une autre écolière de Chibok a été retrouvée plus de 3 ans après son enlèvement par Boko Haram.
Au Niger, l'épidémie de méningite a tué environ 180 personnes, dont près de la moitié des enfants, selon les Nations Unies.
Nouvelle surprise à Washington dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Nomination d'un procureur spécial.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant. Le journal.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a donné la priorité à la paix et à la sécurité pour régler la mutinerie qui a secoué le pays pendant 4 jours. C'est ce qu'a assuré le porte-parole Bruno Conné à la sortie du Conseil des ministres. Des détails avec John Lyndon.
Le nouveau bilan des victimes de la toute dernière mutinerie s'élève à 4 morts et 9 blessés, d'après Bruno Conné, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. À l'issue du Conseil des ministres, il s'est refusé à donner un chiffre exact de la facture à payer qui devrait s'élever à 60 milliards de francs CFA, soit 1% du budget de l'État. Les mutins ont obtenu satisfaction en 4 jours avec leurs fusils alors que les fonctionnaires font grève depuis des mois pour réclamer des augmentations de salaires et paiements d'arriérés de primes estimés à plus de 200 milliards de francs CFA. Pour le syndicaliste Théodore Nyanya Zadi, le gouvernement devrait faire de même pour les fonctionnaires. Pour ce qui concerne ces travailleurs de la fonction publique, le ministre Bruno Conné s'est contenté de dire que des discussions sont en cours.
Au Mali, une force d'intervention rapide composée de casques bleus sénégalais sera prochainement déployée dans le centre du pays où se sont multipliées depuis 2015 attaques et violences intercommunautaires. C'est ce qu'a déclaré hier à Bamako le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, qui effectue sa première visite dans le pays depuis sa prise de fonction.
Et toujours au Mali, un homme et une femme ont été lapidés à mort dans la région septentrionale de Kidal par des islamistes. Selon des élus locaux, mercredi, il était reproché au couple de vivre en concubinage. C'est la première fois depuis 2012 que des faits similaires sont signalés au Mali, dont le vaste nord a été contrôlé pendant près de 10 mois, de mars-avril 2012 jusqu'à mi-janvier 2013, par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda.
Le gouvernement nigérian a annoncé hier qu'une autre écolière de Chibok, kidnappée il y a plus de 3 ans par le groupe djihadiste Boko Haram, avait été retrouvée par l'armée nigériane alors qu'elle fuyait ses ravisseurs. Aucun détail n'a été donné sur le lieu où elle a été retrouvée, mais désormais 107 des 219 lycéennes kidnappées par Boko Haram en avril 2014 sont libres.
Au Niger, selon les Nations Unies, l'épidémie de méningite a tué environ 180 personnes, dont près de la moitié des enfants, sur plus de 3000 malades recensés depuis janvier. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey indique que la maladie a tué 179 personnes du 2 janvier au 7 mai sur un cumul de plus de 3000 cas suspects de méningite. 45% des victimes sont les enfants âgés de 5 à 14 ans. Un précédent bilan onusien le mois dernier a fait état de 120 décès sur presque 2000 cas de méningite sur l'ensemble du pays. Les villes de Niamey, Dosso, Tillabéri, Tawa et Maradi sont les zones les plus touchées. À la mi-avril, le ministre de la Santé, Idi Iliassou, avait lancé une campagne de vaccination pour circonscrire l'épidémie et avait précisé que le pays dispose de médicaments pour soigner jusqu'à 25 000 malades. Le Niger a connu une épidémie de méningite qui avait fait plus de 500 morts sur plus de 8000 cas entre janvier et juin 2015.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle surprise ici à Washington où hier soir, l'ancien directeur du FBI, Robert Mueller, a été nommé au poste de procureur spécial pour superviser l'enquête sur les efforts du gouvernement russe pour influer sur l'élection présidentielle de 2016 et questions connexes. Les précisions sur cette nomination de M. Mueller avec Jean-Roger Bion.
En annonçant la nomination de Robert Mueller, le ministre adjoint de la Justice, Rod Rosenstein, a tenu à préciser qu'elle ne signifiait pas que des crimes ont été commis et que des poursuites étaient nécessaires. M. Rosenstein était plutôt sceptique ces derniers jours sur la question du procureur spécial, mais en se fondant sur des circonstances uniques, a-t-il estimé, il est maintenant dans l'intérêt public de confier l'enquête à une personne qui a un degré d'indépendance par rapport à la hiérarchie du département de la Justice. En réaction, le président Donald Trump, sans mentionner M. Mueller, a déclaré dans un communiqué « Une enquête complète confirmera ce que nous savons déjà. Il n'y a eu aucune collusion entre mon équipe de campagne et une entité étrangère », ajoutant « Je suis impatient que cette affaire se conclue rapidement ». Robert Mueller a dirigé le FBI et la police fédérale américaine pendant 12 ans, de 2001 à 2013, sous George W. Bush, puis Barack Obama, avant d'être remplacé par James Comey, dont le limogeage la semaine dernière par le président Trump a suscité un tollé. Selon la presse américaine, le président aurait demandé à M. Comey de mettre un terme à une enquête sur Michael Flynn, l'ancien conseiller présidentiel à la sécurité nationale, qui avait induit en erreur sur ses contacts avec les Russes.
La police de Washington a dénoncé hier une attaque brutale visant des manifestants pacifiques après des affrontements la veille entre des gardes du président turc Recep Tayyip Erdogan et des protestataires kurdes. Ces violences se sont déroulées mardi soir devant la résidence de l'ambassadeur de Turquie où le chef de l'État turc s'était rendu après son entretien à la Maison-Blanche avec le président américain Donald Trump.
La représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, va se rendre du 19 au 25 mai en Jordanie et en Turquie pour évoquer la crise des réfugiés. Ce sera son premier déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction fin janvier. Madame Haley rencontrera à cette occasion des responsables gouvernementaux et des représentants d'ONG et d'agences de l'ONU et soulignera le rôle moteur des États-Unis dans la réponse humanitaire à la guerre civile en Syrie. Les agences de l'ONU s'inquiètent de la volonté des États-Unis de réduire leur financement, une décision qui pourrait entraver leur travail sur le terrain.
Les Iraniens se rendent aux urnes demain vendredi pour choisir un nouveau président. Le modéré Hassan Rouhani brigue un second mandat face à un conservateur religieux proche de l'ayatollah Khamenei. Éric Manirakiza.
Le bilan de M. Rouhani, 68 ans, est contesté par son principal adversaire, le conservateur Ibrahim Raisi, 56 ans, proche du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Les deux candidats ont tenu leur dernier grand meeting devant des dizaines de milliers de personnes à Mashhad, fief de Raisi, défiant les autorités religieuses de la ville. M. Rouhani a autorisé un concert pendant son rassemblement. Ibrahim Raisi lui se présente comme le défenseur des défavorisés. Il dénonce le chômage qui touche plus de 12% de la population, dont 27% des jeunes. Il accuse M. Rouhani de n'avoir agi que pour les plus riches. La grande inconnue sera le taux de participation. Ce scrutin se tient dans un climat de tension avec les États-Unis. Samedi, jour de la proclamation des résultats, le président Donald Trump se trouvera en Arabie Saoudite, grand rival régional de l'Iran.
En France, Emmanuel Macron préside ce matin son premier conseil des ministres, l'occasion pour le nouveau président de fixer le cap de son quinquennat face à un gouvernement qu'il veut collégial, collectif et à l'image de la recomposition politique lancée pour les législatives françaises de juin prochain, explique-t-on à l'Élysée.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a ordonné hier le déploiement de 2600 militaires dans l'état occidental de Táchira après des pillages et des attaques. Il est confronté depuis début avril à une vague de manifestations qui a fait 43 morts. La veille, M. Maduro avait une nouvelle fois prolongé l'état d'urgence économique en vigueur depuis janvier 2016 qui lui permet de restreindre les garanties constitutionnelles et de prendre des mesures spéciales d'ordre social, économique, politique et juridique. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Abdourahman Dia.
Après le Sénégal, qui vient de lever plus $1 milliard en eurobonds, le Nigeria prévoit à son tour de mobiliser 3,5 milliards en empruntant directement sur le marché international et auprès de la Banque mondiale. Selon les autorités d'Abuja, 2 milliards de ce montant proviendraient de prêts et le reste sera levé sur le marché des eurobonds et le marché des échanges commerciaux. Une mission sénégalaise est attendue prochainement au Ghana pour s'inspirer de l'expérience ghanéenne dans la gestion des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole. L'annonce a été faite dans le communiqué publié à l'issue de la visite du président ghanéen Nana Akufo-Addo à Dakar. D'importantes quantités de pétrole et de gaz ont récemment été découvertes au large du Sénégal, tandis que le Ghana est déjà un pays producteur de pétrole. Enfin, la Banque mondiale a approuvé un financement supplémentaire de 130 millions de dollars pour le projet de ville stratégique en Tanzanie. L'initiative concerne 8 villes de ce pays d'Afrique de l'Est. L'objectif est d'aider ces villes à suivre un rythme d'urbanisation rapide. L'enveloppe servira dans la construction des infrastructures, ce qui devrait booster la croissance du pays. À terme, ce sont l'amélioration de la qualité de la vie des populations et l'accès aux services sociaux de base qui sont visés.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cannes des moins de 17 ans au Gabon, deuxième journée et deuxième gifle pour le pays organisateur.
Ah oui, les Panthères gabonaises ont encore pris 5 buts hier soir à Port-Gentil face au Ghana, défaite 5-0. 10 buts en 2 matchs après la première déroute infligée par la Guinée lors de la première journée du groupe A. Les Black Starlets se qualifient pour les demi-finales de la compétition et pour la Coupe du Monde de la catégorie. Quant aux Camerounais qui en avaient pris 4 lors du premier match, ils se sont repris. Score final 1 partout contre la Guinée. À suivre ce jeudi dans le groupe B, Tanzanie, Angola et Mali, Niger.
Premier titre de la saison pour la Juventus.
Et oui, la Juventus Turin a remporté la Coupe d'Italie pour la 12e fois de son histoire, la 3e fois d'affilée, en battant en finale la Lazio de Rome, 2-0, intraitable. Les Turinois sont sur le point de réaliser le doublé Coupe Championnat pour la 3e fois consécutive. Pour la Serie A, il faudra attendre un peu pour les leaders qui ont 4 points d'avance, avec 2 matchs encore à jouer. Pour la Coupe, hier soir, la finale contre la Lazio a été une formalité. La victoire a été nette, 2-0. En moins de 30 minutes de jeu.
En Espagne, le Real Madrid a fait un pas de plus vers le titre.
En écrasant le Celta Vigo 4-1 hier soir en Galice, en match en retard de la 21e journée de la Liga, le Real Madrid n'a désormais plus besoin que d'un point lors de la dernière journée pour être sacré champion d'Espagne. Il suffira d'un match nul au Real sur la pelouse de Malaga dimanche pour être certain de remporter une Liga qui lui échappe depuis la saison 2011-2012.
Tennis Masters de Rome, la numéro 1 mondiale éliminée d'entrée.
Oui, l'Allemande Angélique Kerber a été éliminée hier dès son entrée en lice au deuxième tour du tournoi de Rome par l'Estonienne Anette Kontaveit, 68e joueuse mondiale. Elle s'est imposée en 6-4, 6-0. Kerber, qui menait 4-2 dans la première manche, a ensuite cédé 10 jeux d'affilée et a finalement été balayée en à peine 55 minutes de jeu. Victorieuse de 2 tournois du Grand Chelem l'année dernière, l'Open d'Australie et l'US Open, Kerber vit une saison difficile avec une seule finale disputée et perdue à Monterrey. Allez, enfin, le résultat de la nuit, c'est de la NBA, le championnat de basket nord-américain, Idrissa. La première manche de la finale de la Conférence Est.
Cleveland a pris d'entrée l'avantage dans la finale de la Conférence Est des playoffs NBA en s'imposant nettement à Boston, 117 à 104, hier soir. Les Cavaliers mènent la série, une victoire à zéro, et ont signé leur 9e victoire consécutive depuis le début des playoffs 2017.
Dans Washington Forum ce jeudi, on décrypte la récente vague de mutineries en Côte d'Ivoire. Des tirs à Boaké, Abidjan et Korogo. Après des négociations difficiles, un accord a été trouvé entre état-major et mutins. Le bras de fer reste intense entre ces militaires et le gouvernement. Qui sont les mutins? Que veulent-ils? Où en est la réforme de l'armée? L'État ivoirien a-t-il réglé définitivement cette crise? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h TU avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, la gestion par les responsables de la police nationale des services payés offerts aux organisations privées a fait l'objet d'une enquête du ministère de la Sécurité intérieure. Un rapport commandité sur la base de nombreuses plaintes d'agents de la police sur les manquements de leurs supérieurs a permis de dévoiler un certain nombre de fautes de gestion imputées à la hiérarchie policière. De Ouagadougou, reportage de notre correspondant Issa Napon.
Ce rapport vient confirmer les récriminations faites par les policiers depuis des mois déjà sur des présumés détournements de fonds à leurs dépens, des services payés, gérés par leurs responsables hiérarchiques à leur bon vouloir. Sur l'ensemble des 13 régions du pays, ce rapport fait un état minutieux de la gestion de 166 services concentrés et déconcentrés de la police qui dévoile 53% des dépenses injustifiées, des services exécutés sans contrat, des sommes détournées, pointe ainsi le chef de la mission d'investigation, l'inspecteur général des services, Seydou Zetienga.
Les manquements, d'une façon générale, vous savez, une rubrique fonctionnement, c'est elle qui pose problème parce que la rubrique n'a pas été encadrée. Donc ça fait que la porte est ouverte à tout. Maintenant, les uns et les autres utilisent la rubrique comme étant une caisse de menu dépenses. Sinon, la répartition telle que faite actuellement, 70% pour le personnel et 30% pour le fonctionnement, pas une base légale. Sinon, c'est effectif qu'il y a des responsables qui ont perçu certaines sommes et pas des moindres. Là aussi, il n'y a pas de directive assez claire.
Diligenté sur ordre du ministre d'État, ministre en charge de la sécurité intérieure, cette enquête a permis à Simon Compaoré de remettre sur la table son leitmotiv de transparence.
Tout cela est parti d'un texte de 1979 qui au jour d'aujourd'hui est complètement dépassé et qui a laissé beaucoup de failles. Et ces failles ont permis justement à ce qu'il y ait ces avatars. Nous avons voulu savoir la vérité, les mesures ont été déjà prises, c'est que jusqu'à ce que le gouvernement opine sur un nouveau décret, il n'y aura plus de fonctionnement comme cela au niveau des services payés. Si on a un contrat avec une banque qui doit payer régulièrement 1 million par mois, ce million-là rentrera dans la caisse de la structure et la structure va faire une utilisation qui profite à l'ensemble des policiers, mais pas à des individus, fussent-ils responsables.
Ces résultats ont été bien accueillis par le syndicat des policiers, même si le secrétaire général de l'Union nationale de la police, UNAPOL, s'inquiète de la suite qui va être réservée à ce rapport. Le commissaire de police, Seno Wakilo.
Nous nous disons que des conséquences doivent être tirées. Bien vrai, il y a des gens qui sont arrivés aux affaires il y a peut-être 6 mois, mais il y a des gens également qui sont aux affaires depuis 3 ans, depuis 5 ans, peut-être depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'on dit de ces gens?
Le ministre en charge de la sécurité intérieure dit avoir transmis le rapport à l'autorité de lutte contre la corruption. Simon Compaoré a aussi pris des mesures conservatoires en attendant la prise de nouveaux décrets, notamment l'arrêt des prélèvements par la hiérarchie policière jusqu'à nouvel ordre sur les services payés et la convocation d'un groupe de réflexion pour poser les bases qui vont servir au futur projet de décret. Les services payés sont les contrats passés entre la police nationale et des organisations privées comme les institutions bancaires ou minières qui sollicitent sous contrat les services de police. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Bénin, brouille entre le gouvernement et les agents aéroportuaires qui disent non à ce qu'ils qualifient de bradage de l'aéroport international Cardinal Bernardin de Gantin de Cotonou. Avec notre correspondante sur place, Ginette Fleur Adandé, les raisons de la colère des travailleurs de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la SECNA.
L'aéroport n'est pas en faillite, c'est quand je suis en faillite qu'on se précipite pour chercher des solutions.
C'est après une assemblée générale mardi que les travailleurs ont décidé d'aller en grève afin de protester contre la rapidité avec laquelle le gouvernement veut mettre en concession l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Ils s'insurgent contre cette action qui, selon eux, ne respecte aucunement le dialogue social et laisse penser à des manœuvres douteuses pour brader le bien public.
Ils ont commencé dans un premier temps à critiquer la SECNA en parlant de lenteur. Mais vous voulez accélérer. On vous dit amener le plan que vous n'avez pas amené. Vous voulez maintenant accélérer. Vous voulez que les choses aillent mieux. Vous mettez en place un comité pour qu'on travaille et vous passez derrière pour faire un DAO, un dossier d'appel d'offres.
Branle-Bas m'a dit dans les compagnies qui ont dû veiller tard pour que les vols à destination de Cotonou arrivaient Lomé. Le ministre des Transports, de son côté, a réuni la presse pour expliquer le bien fondé de la décision du gouvernement. Pour lui, la gestion de l'aéroport est des plus catastrophiques depuis quelques années. Hervé Réromain.
Aucun spécialiste, aucun membre du personnel de la DAN n'a fait la spécialité gestion aéroportuaire. Et tout ça concourt à l'état dans lequel notre aéroport est aujourd'hui. Vous allez dans des pays voisins, les aéroports ne sont plus comme nous sommes à Cotonou. Nous ne voulons plus faire de l'amateurisme, nous ne voulons plus confier notre aéroport à des amateurs.
Mercredi matin, alors que tout le monde s'attendait à une grève illimitée, comme l'ont décidé les travailleurs, un comité de crise installé a quelque peu désamorcé la grève.
Comme vous pouvez le savoir, lorsqu'un syndicat dépose une motion de grève, son objectif ce n'est pas la grève, c'est la satisfaction d'un besoin qu'il exprime. Nous ne pouvons pas encore dire à l'étape de négociation que ce qui est dans la motion a été pris en compte. Mais nous sommes sur la foi.
Mais la menace reste toujours évidente puisque les travailleurs exigent que la décision du comité de crise soit l'annulation du processus qui apparemment, selon le gouvernement, est à un niveau bien avancé. Même si l'équipe dirigeante de la SECNA se félicite de l'accalmie actuelle, les travailleurs ne comptent pas baisser la garde. Le ministre maintient que la gestion de l'aéroport sera retirée à la SECNA pendant que les travailleurs exigent le contraire.
L'Assemblée générale donc exige l'annulation pure et simple de la procédure de mise en concession de l'aéroport Cardinal Bernardin-Gatti de Cotonou en attendant les résultats des travaux du comité ad hoc.
La petite lueur qui semble traverser le ciel aéroportuaire risque de s'obscurcir davantage si les deux parties n'arrivent pas à accorder le violon. De Cotonou, Ginette Le Adondé pour VOA Afrique.
Reporters sans frontières attire l'attention sur un pluralisme de façade du paysage médiatique au Burundi. Deux ans après la destruction des médias indépendants, RSF fait le bilan de la situation. Eric Manirakiza a joint à Paris la responsable du bureau Afrique au sein de RSF, Cléa Kahn-Schreiber.
Ça fait deux ans que les principales radios qui émettaient depuis Bujumbura, mais dans tout le pays, ont été fermées de force. Et depuis, le Burundi n'a pas retrouvé le même niveau de liberté d'information, d'accès à des opinions contradictoires, de débats, etc., qui était permis, qui était rendu possible par la multiplicité de ces radios. De toutes ces radios considérées comme indépendantes qui ont été fermées, seulement une a réouvert avec une équipe renouvelée, notamment au niveau de la direction. C'est la radio Isanganiro et elle a dû s'engager à suivre une certaine ligne éditoriale et aujourd'hui il y a plusieurs témoignages qui montrent qu'elle n'est pas aussi libre qu'elle l'était par le passé. Donc clairement la liberté de ton mais pas dans la liberté de couvrir des informations d'intérêt public n'existe plus en l'état au Burundi.
Est-ce que vous pensez que le contexte le permet vraiment pour revenir à l'environnement médiatique qu'on connaissait il y a deux ans?
La situation peut revenir à une situation apaisée si les pouvoirs en place donnent des garanties démocratiques. Or là, on a l'impression qu'on va quand même dans le sens inverse puisque maintenant on parle même d'un quatrième mandat. Le gouvernement s'est entêté dans son opposition à tout dialogue démocratique et donc maintenant la situation est vraiment très compliquée.
Ces médias ont essayé de travailler tant bien que mal à partir de l'exil, mais elles fonctionnent dans une extrême précarité.
Enfin, oui, après c'est des médias qui sont importants de soutenir. C'est vrai qu'ils souffrent aussi, en plus de la précarité dont vous avez parlé, du fait qu'ils sont éloignés des sources d'informations premières et qu'en plus les journalistes qui veulent leur servir de relais sur le terrain depuis le Burundi sont régulièrement menacés et donc de moins en moins osent participer à ces médias. Donc c'est des médias qui sont évidemment dans une situation très fragile.
Vous parlez justement de l'accès aux sources au Burundi. Dit, c'est très compliqué.
Oui, c'est extrêmement compliqué. Beaucoup d'instances du gouvernement sont dans une grande défiance vis-à-vis des médias. Il y a aussi un système de contrôle qui s'est accentué avec notamment le fait de devoir se déclarer dans les localités quand on veut couvrir un sujet. Alors c'est pas une paranoïa parce que ça a l'air assez justifié, mais disons vraiment une omerta qui s'est installée au Burundi où les gens n'osent pas parler. Il y a vraiment un règne de la crainte parce que je pense le gouvernement aussi est passé dans un mode assez arbitraire de répression. questions sans qu'il y ait vraiment de compte à rendre. Quand la police ou le SMR vous arrête, vous n'êtes pas du tout garanti de pouvoir en sortir et le risque est clair de disparaître qui est arrivé notamment au journaliste Jean Biguerimana.
C'était Cléa Kahn-Sriber de Reporters sans frontières, contactée à Paris.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En France, le gouvernement Philippe, nommé hier, respecte les engagements du candidat Macron, parité, diversité politique et implication de la société civile. Grande absente toutefois de ce début de quinquennat, un ministère qui centralise les relations du continent africain avec l'Hexagone. Anastasie Toudièche a joint à Paris Mathieu Collet, président de l'Euro Agency, agence de communication politique et de diplomatie publique, et lui a demandé comment comprendre l'absence d'un ministère de la coopération.
En fait, le secrétaire d'État à la coopération a disparu en 2012. Il avait été remplacé par un secrétariat au développement et un secrétaire d'État à la francophonie. Donc c'est une disparition en fait que François Hollande lui-même avait voulu marquer pour en finir un peu avec voilà ce qu'on mentionne souvent qui est la France-Afrique et marquer une rupture de ce point de vue-là. Voilà, la coopération, comme on le sait, c'est à la base, ça a été créé
par le général de Gaulle.
Voilà, les années 60 pour maintenir le lien avec les anciennes colonies et puis après au fur et à mesure ça a été étendu au-delà de l'espace francophone et subsaharien, quasiment l'ensemble des pays africains, et également lusophones et anglophones. Et Caraïbes, exactement. Donc il n'y aura pas de retour secrétariat d'État à la coopération, ça c'est quasiment sûr. Après, on vient d'assister à une première nomination aujourd'hui. Il n'est pas impossible qu'après les élections législatives, il y ait d'autres secrétaires d'État ou ministères délégués qui apparaissent. Mais il est très peu probable qu'on ait un secrétaire d'État à la coopération. Il est possible, en revanche, qu'on ait des choses autour du développement de la francophonie. Ça, c'est tout à fait possible.
Est-ce que vous pouvez comprendre l'inquiétude des Africains qui, du coup, se demandent comment ces relations particulières, qu'on le veuille ou non, ces relations particulières vont être gérées?
Emmanuel Macron a dit pendant sa campagne « J'agirai en Afrique en toute transparence, loin des réseaux de connivence ». Il sous-entendait probablement deux types de réseaux, certains réseaux économiques et certains réseaux plus diplomatiques et de soutien, on va dire, à des chefs d'État non élus démocratiquement, par exemple. Il avait pris ses distances avec Bongo, on le sait. Mais il avait dit aussi la politique de normalisation engagée par François Hollande doit aller à son terme. Donc ça veut dire qu'il va avoir, à mon sens, une diplomatie surtout économique à côté de la lutte contre le terrorisme, l'engagement militaire, du rôle de stabilité que joue la France et que la France souhaite assumer. Il y a une chose qui est importante à souligner, c'est le fait que Le Drian soit ministre des Affaires étrangères. Donc ça indique qu'il y a une forte continuité, une certaine continuité, notamment en termes de défense, de politique militaire et de positionnement de la France sur l'espace stratégique. Je donne rendez-vous après les législatives pour voir les questions de développement et de francophonie. Je pense qu'une des préoccupations d'Emmanuel Macron, c'est que les entreprises des deux continents se parlent, enfin, françaises et africaines se parlent, et ça va être vraiment primordial. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à défendre et à soutenir les grands groupes français et leurs intérêts. Donc là, je ne vois pas de rupture fondamentale. Mais voilà, je pense que la politique du développement, la francophonie, va demeurer un point important de diplomatie, et en particulier de diplomatie économique.
C'était Mathieu Collet, directeur de l'agence de communication Euro Agency.
Dans Washington Forum ce jeudi, on décrypte la récente vague de mutineries en Côte d'Ivoire. Des tirs à Boaké, Abidjan et Korogo. Après des négociations difficiles, un accord a été trouvé entre état-major et mutins. Le bras de fer reste intense entre ces militaires et le gouvernement. Qui sont les mutins? Que veulent-ils? Où en est la réforme de l'armée? L'État ivoirien a-t-il réglé définitivement cette crise? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h TU avec Tatiana Mosso et ses invités.
VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sirudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.